L'émission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans un LEM un peu sorcier, en tout cas ethnobotaniste, c'est sûr. Il est question des plantes et de leurs usages. Comme c'est vaste, on va se limiter à la Bretagne. C'est déjà énorme tant les humains ont collecté expérience et savoir sur les végétaux, les façons de les utiliser, notamment pour la santé, mais pas seulement, pour la cuisine aussi. Il existait autrefois un diplôme officiel d'herboriste, celui ou celle qui préparait les remèdes à base de plantes dans des officines, ancêtres des pharmacies. La dernière herboriste diplômée est morte en 2018. Mais depuis, seuls les médecins, les pharmaciens, les vétérinaires peuvent suivre un cursus de phytothérapie. Il existe heureusement une association qui réclame le renouveau de ce métier d'herboriste. Et en attendant, il existe aussi des passionnés qui s'attachent à préserver, eux, les savoirs et les traditions qui s'attachent aux plantes. C'est le cas des membres de l'association Flora Armorica, qui existe depuis 10 ans, puisqu'elle a été créée en 2009 et elle a commencé à collecter les savoirs autour des plantes en Bretagne. Et donc à faire ce qu'on pourrait appeler de l'ethnologie botanique ou ethnobotanique. Et nous avons deux éminentes membres actifs de l'association en studio aujourd'hui, Viviane Carlier et Isabelle Mazot. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Ah, ça c'est un beau cœur. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer le champ de recherche de Flora Armorica? Quel type de plantes déjà vous étudiez en particulier?
Alors en fait, l'ethnobotanique, c'est tout ce qui est relation homme-plante. Donc, il n'y a aucune limite par rapport aux espèces qui sont citées.
Y compris les arbres, par exemple.
Voilà, ça va de la plante sauvage, passant par les algues, les arbres et les plantes cultivées aussi.
Et on sait que les champignons ne sont plus officiellement des végétaux. Est-ce que vous vous y intéressez aussi? Parce que c'est vraiment un champ, déjà, tout ce qui est mycologie, c'est déjà un champ à soi tout seul.
On n'a pas beaucoup de collectage sur les champignons, mais ça pourrait, on n'est pas fermé à ça.
Les gens ne communiquent pas vraiment sur les champignons, ils connaissent pas tellement et on n'a pas tellement de témoignages spontanés sur les champignons.
Vous pourriez vous mettre en cheville avec la société mycologique du Finistère, par exemple, ça serait une idée.
Tout à fait.
Et alors, vous avez choisi donc comme territoire la Bretagne, c'est ça? Enfin, c'est la Bretagne historique
La Bretagne historique, oui, donc, les cinq départements.
Et comment est-ce que vous répartissez alors sur le territoire?
Alors en fait, c'est beaucoup en fonction des personnes qui veulent s'impliquer dans l'association, qu'on crée des pôles géographiques. Donc là, par exemple, il y en a un, on se réunit régulièrement sur Carré, sur Corré, sur Brec. Et puis il y a des pôles qui
sur
sont... Brec.
Brec, pardon. Dans le Morbihan, c'est ça?
Ouais, c'est ça, près d'Auray.
Ouais, je ne sais pas prononcer, forcément.
Oui. Et puis, il y a un pôle qui va redémarrer sur l'Anilis, hein, le pays des Abers et pays Pagans. Il y a un pôle qui doit redémarrer sur Pont-l'Abbé aussi. Et puis, on a peut-être une antenne de Brec qui va se spécialiser sur l'Orient, plus bord de mer.
Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est plutôt l'intérieur des terres, en fait, là, pour l'instant, jusqu'à présent.
Pas spécialement, non. Les gens viennent d'un peu partout, il n'y a pas de...
Ouais. Combien est-ce que vous êtes, alors, dans l'association?
Une soixantaine, je pense.
Ah oui, quand même. Et quel est le profil des adhérents?
Très varié. Il y a vraiment de tout. C'est les gens qui s'intéressent aux plantes, donc ça peut être... Il y a des âges très variés également, hein. Ça peut aller d'une trentaine d'années aux retraités. Et oui, il n'y a vraiment pas de profil type, on ne peut pas dire.
Il peut y avoir des gens qui viennent parce qu'ils sont informaticiens, donc ils participent parce qu'ils sont spécialisés dans ce domaine. Il y en a d'autres qui vont être passionnés par l'usage médicinal des plantes, d'autres ça va être la vannerie. Donc en fait, à chaque fois, ça va être en fonction de... On n'est pas obligé d'être botaniste et de connaître les plantes pour participer au projet de Flora Armorica.
Et vous en avez quand même des botanistes aussi?
Oui, oui.
Alors nous avons une référente d'ailleurs, Viviane Carlier elle-même, qui est botaniste. Vous en avez plusieurs, des consultants scientifiques, entre guillemets?
Il y a Daniel Chicouen qui nous aide, qui fait partie de l'association si on a besoin d'un coup de main, ils nous...
Oui, parce qu'il y a besoin d'avoir un regard scientifique, je suppose, quand même. Enfin, des vrais connaisseurs, même si c'est bien d'avoir des néophytes.
Alors, en fait, chaque enquête qui est faite, je les reprends et je les valide par rapport, justement, à la nomenclature. Et puis, par rapport... voilà, des fois, il y a des gens qui pourraient raconter des choses bizarres ou pas courtes. Donc, on attend vraiment d'avoir une... On a des seuils de plus, moins.
Fiable, pas
fiable. Suivant la fiabilité des enquêtes. Hein.
Alors les enquêtes, justement, allons-y. Détaillons, comment est-ce que vous procédez? Parce que bon, vous collectez, c'est bien beau, mais...
Alors, on a au départ, Flora Armorica, c'était un réseau. Donc il y avait plusieurs assos.
Ah oui, par exemple.
Qui ont décidé, donc il y avait Skol Loarnik... Il y avait les mémoires du Grace Brace, il y avait Alan Goes, il y avait, tout au début, il y avait Jean-Pierre Nicolas avec Jardin du Monde.
Donc et des associations puis, plutôt basées en Centre-Bretagne, si je ne m'abuse.
Au début, c'était un projet Centre-Breton, ouais.
D'accord.
Et donc, on a, sur 3 ans, développé une méthode expérimentale. Tout à partir de groupes de travail. Donc, il y avait des gens de toute la Bretagne qui venaient. Et on a réfléchi, on faisait 2 jours souvent ensemble, assez régulièrement, pour définir la méthodologie de l'enquête ethnobotanique, avec en plus la visée de mettre toutes les enquêtes en base de données.
Mmh, d'accord.
Pour la sauvegarde.
Et alors, comment vous faites? Quelle est-elle, cette méthode?
Alors, on va en fait rencontrer les gens ou trouver des documents ou des films qui ont trait de la relation homme-plante. Alors la relation homme-plante, c'est vachement vaste.
Ah oui.
Ça peut être le nom, ça peut être une comptine, ça peut être une légende, ça peut être... On disait tout à l'heure, hein, l'usage médicinal, l'usage comestible, les jouets buissonniers.
Oui.
Isabelle, vous avez
sur
abordé.
Le pôle de Corée, on a beaucoup travaillé. On a eu beaucoup d'éléments sur les jeux et on a beaucoup aimé ça. D'ailleurs, on a fait des newsletters sur les jeux et on aime bien.
Ah oui, qu'est-ce qu'il y a par exemple alors, comme exemple
Par exemple. Tout ce qui est sifflet, arc, avec le sureau, par exemple, on peut faire des sarbacanes. Tout ce qui est châtaignier, pour faire des vêtements, pour faire des déguisements, les glands pour faire des boucles d'oreilles. La dinette avec des petites feuilles qui font soit les poissons ou les nombrils de Vénus qui font les crêpes. Il y avait une imagination vraiment débordante parce qu'ils n'avaient rien pour jouer. Donc les plantes, c'était vraiment un domaine de jeu extraordinaire.
Donc il peut y avoir des spécialisations comme ça selon le point géographique, en fait, c'est ça?
Voilà, il va y avoir aussi les grignotages de talus.
Ah oui, aussi. Les noisettes de terre, par exemple, hein, qui étaient très, très consommées.
Ah oui, qu'est-ce que c'est en vrai, les noisettes de terre?
Alors, c'est une... Les gens l'appellent souvent carotte sauvage à tort. C'est Conopodium majuste, de son nom scientifique. Et en fait, c'est une petite plante qui pousse sur les talus, bord sous bois frais, on va dire. Et
son feuillage ressemble à quoi, en gros?
Il est très filiforme.
C'est pour ça, il ressemble un peu à celui de la carotte quand même.
Ouais. Voilà, c'est une ombellifère blanche. Donc, c'est surtout le tubercule qui est rond, donc qui a le goût de la noisette.
Vraiment le goût de la noisette. Mmh. Bon, et ça, les enfants adoraient manger ça.
Voilà, en rentrant de l'école, ils récoltaient ça sur les talus. Donc il y avait ça, l'oseille sauvage aussi pour la
trichine.
Trichine.
Mmh. Quand on a soif, c'est bien.
Les jeunes pousses de mûre.
Aussi, oui.
Ah oui. C'est bon, les jeunes. Ça a quel goût? Ça a un goût de mûre?
Non, c'est un peu sucré, mais pas... C'est surtout... Ah oui, c'était surtout pour le mot de gorge qu'on utilisait, ça.
Oui, oui.
Donc vous partez plutôt des données, enfin des données, des documents, c'est-à-dire des gens eux-mêmes qui sont qui ont des choses à raconter, ou des documents écrits qu'ils auraient pu produire, que d'une plante. Vous dites pas, bah tiens, on va faire une enquête sur le pissenlit, puis allons-y quoi.
Alors c'est chaque pôle qui gère ses enquêtes, chaque pôle qui décide comment il va mener, s'il veut s'attacher à un thème. Ou alors, si on va sur un marché, par exemple.
Oui. Donc, le pôle de Pont-l'Abbé avait beaucoup travaillé sur tout ce qui était céréales, graminées. Ils avaient fait toute une enquête là-dessus. Et donc, ils ont même fait une exposition. Hein, donc, c'était intéressant qu'on peut utiliser justement en support. On se rend compte que les gens sont très intéressés.
Et c'était parti parce qu'ils avaient constaté que c'était un sujet saillant dans leur coin, quoi, en Pays Bigoudin.
Oui, je pense que c'était de l'intérêt particulier de l'un d'entre eux.
Voilà, il y a une personne en particulier qui était plus intéressée, et du coup, elle a creusé ça. Vers Brec, il y a des gens qui sont en train d'enquêter sur, j'ai oublié le nom breton, mais l'herbe de la peur, les herbes de la peur.
Qu'est-ce donc ?
Donc, c'est un mélange d'herbes qui protège de la peur.
C'est déstressant, quoi, on peut dire. D'accord.
Jusqu'à présent,
plus en amulette, en fait.
Ah ouais. Ah ouais. C'est pas à boire ou à mâchouiller. Ouais. D'accord.
Et donc, on peut faire des enquêtes soit chez les gens, donc aller les rencontrer, passer un moment avec eux et leur poser des questions. Souvent les anciens, d'ailleurs, parce que le savoir s'est un peu perdu après. Hein. Soit ce qu'on fait aussi avec le pôle de Corée, on s'est rendu compte que les marchés aux fleurs, par exemple, sont des endroits où on rencontre des gens qui, par principe, aiment bien les plantes. Et donc, on installe notre stand avec justement des tas de plantes du genre ortie, châtaignier, mûre, nombril de Vénus, kélidoine, enfin tout ce qu'on a dans...
Du sauvage, en fait.
La plupart du temps sauvage, oui. Et donc, les gens sont intrigués, hein, ils se disent « qu'est-ce que c'est que ça ?» Et donc, on amorce la discussion avec ces plantes et puis on leur demande « qu'est-ce que vous... » De quoi vous vous souvenez, qu'est-ce que vous aviez comme usage ou qu'est-ce que vous avez encore. Et une fois qu'on a amorcé la pompe, les gens disent souvent ben, « Oh non, on ne sait rien sur les plantes ». Et puis une fois qu'on a commencé, ben, on leur dit ben, « Si, bien sûr, les orties, qu'est-ce que ça vous dit bien quelque chose ?»
Ben oui, en général, ça dit bien à tout le monde.
Voilà. Et donc, une fois qu'ils ont commencé, ils ressortent plein de souvenirs. Et donc nous, on les note et ensuite on les ressaisit... on peut également les enregistrer.
Oui, c'est la question que j'allais vous poser quand même en radio. On est forcément obligé de vous poser la question. Vous enregistrez les gens ?
Au départ, dans la méthodologie, il faut enregistrer pour être sûr de pas louper trop de choses. Ouais. Dans le concret, c'est pas toujours possible parce que on n'a pas le temps.
Oui, bien sûr. Surtout dans un marché, en fait, on peut avoir plusieurs personnes. Souvent, c'est amusant parce qu'on a personne et tout d'un coup, on en a trois ou quatre qui arrivent et qui amorcent la conversation, qui parlent entre eux aussi. Et donc, ça fait un peu brouhaha. C'est assez difficile
La captation sonore serait un peu délicate.
Ouais, voilà. Ouais. Donc, en fait, on est plusieurs et on a chacun notre petit carnet. Et après, on confronte ce qu'on a écrit. Et on prend sur l'informatique ensuite les données.
Alors comment est-ce que vous les classez justement les données ?
Alors elles sont classées, il y a des grandes familles, ben un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, tout ce qui est usage alimentaire humain, usage alimentaire vétérinaire.
Les rituels aussi, hein, tout ce qui est rituel.
Usage médicinal, usage magique.
Magique rituel.
Et rituels, ouais.
Les jeux, tu as dit, oui.
Les jeux, contes et légendes.
Voilà. Et donc, voilà, les différents usages.
Puis il y avait l'usage pratique, par exemple, comme c'est vrai, la vannerie, j'y avais pas pensé, et pourtant j'avais fait un sujet récemment là-dessus. Ces usages-là aussi, comment on pourrait les classifier
On les a appelés techniques.
Techniques, voilà. D'accord. Et sinon, vous répertoriez donc le nom, j'imagine, savant de la plante, hein, et puis quoi, son nombre de tons aussi, ou ses nombres de tons, et puis tous ses surnoms, ça doit être ça aussi.
Alors, en fait, d'abord, c'est... On répertorie comment les gens appellent la plante et après c'est à nous d'identifier de quelle plante il s'agit si jamais on ne l'a pas sous les yeux. Et puis ensuite...
Il y a le nom latin bien sûr, le nom d'usage, on peut en avoir plusieurs.
Oui c'est ça, j'allais dire, il y a des plantes je pense qui ont au moins une dizaine de noms d'usage, non ? Enfin, vous n'avez pas des exemples comme ça de plantes qui ont énormément de noms d'usage ?
Le nombril de Vénus, ouais. Par exemple, hein, il va être... le Krampus mangose, Krampus mogique.
Crêpe de la grand-mère. Ok.
Crêpe musicale ou crêpe boudeuse, suivant les endroits. Ça ne me revient pas, là.
Parce qu'en fait, le nombril de Vénus, on en a parlé récemment là, dans une des chroniques de Marie Cultive, ça se mange en plus, c'est ça ? On peut s'en servir pour faire des tartines ?
Ça se mange et ça sert... Alors, il y a plein d'usages. Si jamais on ne sait pas comment accrocher les gens, c'est comme l'ortie, quoi. Oui. Le nombril de Vénus en Bretagne, tout le monde le connaît.
Ah oui, qu'est-ce qu'on peut faire avec d'autres ?
Alors, on s'en servait beaucoup pour les problèmes de peau.
Alors, il faut dire c'est une feuille. Hein. C'est une feuille qui est un petit peu
charnue,
lisse.
Charnue,
ouais,
ronde.
Ouais, c'est ça.
Et qui pousse sur les murs.
Oui.
Bien ronde. Donc, c'est la forme d'un nombril.
D'accord. Et donc, alors, et santé donc, pour la peau.
Alors, pour la peau, soit les gens prenaient... on casse la feuille en deux, on enlève une toute petite peau derrière. Et soit on se frotte avec la partie charnue. Soit pour cicatriser, on va poser... Le petit film transparent de la feuille. Et puis, on peut aussi faire des pommades. En Pays Bigoudin, il y a eu des pommades qui ont été faites contre les engelures. En Centre-Bretagne, on faisait une pommade contre les brûlures des biliques. Donc, c'était aussi...
Donc, c'est un pouvoir cicatrisant, quoi, apparemment. Enfin, on lui prête, en tout cas, ce pouvoir-là.
Y compris sur les gamelles neuves. Et encore, l'autre jour, quand il y avait la projection d'Anaïs s'en va en guerre, il y avait une dame, Denise Lefranc, qui a déjà été filmée dans des petits courts-métrages pour témoigner de l'usage des plantes. Et en fait, elle racontait ça, qu'elle utilisait le nombril de Vénus pour déculoter les biliques.
Ah oui.
Ou culotter les biliques.
Ah ben ça, je ne sais pas, là, j'avoue.
En fait, on met plein de feuilles sur la bilique quand elle est neuve.
Oui.
Ou quand elle n'a pas servi depuis un moment.
Oui.
Et puis,
ça la nettoie, en fait.
On fait chauffer
pendant une demi-heure ou plus. Et puis, voilà. Et donc, ça, c'est un collectage qu'on avait eu par ailleurs dans d'autres endroits.
Oui,
déjà.
Ça, c'est un collectage très fréquent.
Ouais. Et vous notez à chaque fois le nom de la personne, la personne source de l'information.
Voilà. Alors là, je citais la personne parce que son nom est cité largement partout. Mais par contre, quand on mène une enquête, la règle est la confidentialité. C'est-à-dire que les gens choisissent ils veulent qu'on donne leur nom ou pas.
Et est-ce que vous faites des vérifications, entre guillemets, scientifiques ? Par exemple, pour les usages, l'usage, mettons, cicatrisant, et c'est intéressant d'aller voir ce qu'il en est réellement. Est-ce qu'il y a une molécule qui favorise la cicatrisation en vrai dans le nombril de Vénus ? Vous n'avez pas le temps de faire ça, peut-être ?
Non, ça, ce sera par la suite.
Oui.
Si on a le temps de recroiser, de retravailler la base de données...
Et parce que là, l'enquête, en fait, est-ce qu'elle est jamais close potentiellement, si ? Sur une plante, enfin, ou sur...
Non, puisqu'on peut toujours avoir de nouveaux témoignages. Hein, donc, et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut avoir le même témoignage un très grand nombre de fois, mais ça nous permet justement de positionner des petits points sur la carte de Bretagne et de voir l'aire géographique d'un usage.
Ah oui.
Parce qu'il y a des usages qui sont très largement répandus, il y en a d'autres qui sont vraiment beaucoup plus circonscrits sur un petit territoire.
Et en fait, les synthèses, c'est ce qu'on va pouvoir se mettre à faire quand on aura une base de données qui fonctionne bien.
Digne de ce nom.
Digne de ce nom. Bon. Pour l'instant, on a fait beaucoup de travail de saisie, en fait. Hein. Mais d'abord, il n'est pas terminé. Et ensuite, après, effectivement, c'est toutes les synthèses qu'on pourra en retirer qui seront aussi intéressantes.
Et vous savez combien d'espèces végétales vous avez collectées pour l'instant ?
Alors, de nombre d'espèces, non, mais on a 1627 plantes qui ont été, qui ont été citées. Il y a jusqu'à présent 351 collectages qui ont été rentrés dans la base de données, mais il y en a encore plein qui n'ont pas été rentrés. Et puis, au niveau des validations, j'ai encore 700 collectages à valider.
Ça fait un peu de travail pour une seule personne.
Et oui. Et sinon, on a 2286 usages référencés.
Ah ouais. Et alors donc, vous avez lancé un financement participatif. Il est toujours en cours ?
Oui, jusqu'à fin mars,
Alors, sur quelle plateforme, déjà ?
Sur Ulule.
Alors, c'est quoi les mots-clés pour le trouver ?
Alors, c'est sur... c'est Flora Armorica.
Et ça servira à financer quoi ?
Alors, c'est pour financer les gens qui vont travailler sur la manière de retransmettre les données qui sont dans la base et puis lui faire un peu de toilette, parce que ça fait quand même 10 ou 15 ans que ça fonctionne comme ça. Donc
l'idée serait une sorte d'atlas numérique avec un moteur de recherche, ou c'est ça, ou comment ça fonctionnerait ?
Tout est
à imaginer, à créer.
Et pour ça, on ne peut pas le faire sans l'appui de spécialistes en informatique.
Mais l'idée, ça sera numérique. Ça sera pas, d'abord un traitement numérique de la base.
D'abord, c'est numérique. Mmh. Et après, on peut tout à fait faire tout un tas de retransmissions autres, des bouquins, des films, tout ce qui est possible, des expos, comme on a déjà fait.
Ouais. Qu'est-ce que vous avez déjà produit, justement, Flora Armorica, depuis 2009 ? Vous avez dû en produire des documents ou des expos, justement, ou des événements, d'ailleurs ?
Oui, alors, donc, il y a eu un fascicule qui s'appelle Ethnobotaniste en Bretagne, qui est un manuel de terrain pour les enquêtes sur les usages populaires des plantes.
Donc, si on veut s'y mettre, c'est ça qu'il faut avoir, en fait ?
Oui, c'est une très bonne base, c'est sûr. Oui,
très bien.
Il y a eu également donc un livre qui est paru qui s'appelle Première cueillette. Alors mon breton est pas formidable, mais Dastumadeg Kentan, et qui a repris justement des usages avec une monographie pour certaines plantes celles qui reviennent le plus souvent.
Elles ont été détaillées, quoi.
Ouais. Voilà. Ouais. Et donc, mais malheureusement, ce livre n'est plus a été édité en 1000 exemplaires et il n'existe plus.
Mais on peut le télécharger sur le site internet. C'est-à-dire que et le guide Ethnobotaniste en Bretagne, le livre d'Astumadek Kenton, il y a un film aussi qui a été fait, Louzou Arvro, un film documentaire qui est en ligne également. Il y a les lettres qui sont téléchargeables sur le site.
Sur le site, oui.
Vous en produisez tous les combien, des newsletters, pardon
À l'occasion, quand il y a des volontaires.
Quand on a un sujet où on a pas mal de données, on en a fait 5 jusqu'à présent, et cette année, on va peut-être continuer. On avait l'intention d'en faire une aussi sur le pôle de Corée, sur tout ce qui était procession. Qu'en fait, il y avait beaucoup de pétales de fleurs qui étaient collectés par les enfants des écoles et qui étaient jetés. Enfin, ils faisaient des motifs sur le sol.
Comme des mandalas sur la plage.
Un peu, oui. Et d'un village à l'autre, il y avait quelques variantes, mais vraiment, c'était un usage très très répandu jusque dans les années 60-70, je dirais.
De plusieurs fleurs, alors, enfin, ils mélangeaient
Tout ce qu'il y avait à l'époque, donc c'était, il y avait des pétales, il y avait des genêts, je pense, il y avait des digitales, des roses, peut-être.
C'était au printemps,
en juin, mai-juin. Ouais.
Marc de café.
Il y avait du marc de café pour faire également des
les pourtours
des dessins. Et c'était une pratique très répandue et qu'on trouve... très intéressante, très jolie.
Oui, éphémère.
Voilà.
Est-ce qu'on en a gardé des traces photographiques, par exemple ?
Je pense qu'il y a quelques photos, oui.
Collectez aussi, j'imagine, des photos. Ça doit être intéressant pour vous.
Les photos et les films aussi, parce que justement, l'autre jour, on a vu qu'il y avait des films super qui étaient faits et puis on n'a pas su, quoi. Donc, c'est vrai qu'on est très demandeurs de tout ce qui est documents... sur les plantes et leurs usages.
Donc on lance un double appel, voire un triple appel, enfin déjà un appel donc pour le financement participatif jusqu'à fin mars, c'est ça ?
Oui.
Fin du mois de mars. Appel à collectage, donc si vous avez des témoignages familiaux ou autres, enfin, ou personnels à transmettre sur les usages de plantes, quelles qu'elles soient, y compris les arbres donc. Et puis, appel aussi peut-être à bénévoles, non ? Je sais pas.
Tout à fait. On recherche toujours des gens pour se joindre à nous, se joindre au pôle existant ou alors créer un pôle si c'est dans une région géographique où pour l'instant, il n'y en a pas. Et là, moi, j'interviens pour former les personnes, pour leur apprendre...
Parce qu'il faut dire à nos auditeurs que Viviane Carlier forme les gens aux usages des plantes. Alors lesquels, par exemple, qu'est-ce qu'il y aura comme stage prochainement ?
Alors, ben, il y a les algues. Tiens, d'ailleurs, on n'a pas dit pour Flora Armorica, on collecte aussi sur les algues.
Si, ça a été mentionné.
Ouais, d'accord, ouais. Ok. Et du coup, je fais des stages sur tout ce qui est alimentaire et médicinal, au niveau des algues et au niveau des plantes sauvages. Et puis aussi des week-ends de reconnaissance botanique, des choses comme ça.
Très bien, ben, on mettra de toute façon toutes les références de l'association Flora Armorica, de Viviane Carlier pour ce qui est des formations sur les usages qu'il faut préserver, parce que c'est un vrai patrimoine immatériel, certes, mais précieux. Merci à toutes les deux d'être venues dans cette émission.
Merci à vous.
On pourra réécouter sur le site de Radio Évasion. À bientôt.
L'émission.